Eh ben merci, Kevin America derrière la console, de nous avoir invités. Et effectivement, on a eu l'occasion, oui, de se revoir récemment. Hein. Vous avez fait une petite interview. Donc j'écris avec Sophie Gosselin, qui est aussi ma compagne. Donc on coécrit, on vit ensemble. Enfin, c'est une dynamique assez particulière. On a déjà fait deux livres. Et effectivement, on est tous les deux, on habite à Tours. Hein. Et pile poil, c'est à Tours où est né ce projet de Parlement de Loire. C'est à 500 mètres de chez nous. Pour tout vous dire, je n'en ai pas entendu parler. C'est un moment donné où j'entends, tu vas voir, là, dans peu de temps, il y a eu une proposition. Cette proposition, c'est quoi ? C'est le pôle des arts urbains, le Polo, qui se trouve à Saint-Pierre-des-Corps, qui est assez, quand même une asso assez conséquente. Hein, on va dire qu'il vient plutôt des milieux des arts vivants de la rue et qui a essayé de redessiner comment on peut impacter l'espace public pour repenser l'urbanisme, non plus simplement pour faire de l'aménagement, mais essayer de voir si effectivement on ne pouvait pas penser culturellement autre l'idée d'intervenir dans l'espace public. Donc ça, c'est leur rôle, et ils font des résidences d'artistes et autres. Et il y a quelque chose aussi qui est particulier, qui est né en France hein, pour les auteurs, ça s'appelle, nous, c'est avec Cyclic. Donc c'est Camille de Toledo, un auteur qui, pendant un an, a fait donc une sorte de résidence. Là, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, je dis « on » parce que moi, je l'ai fait juste après. C'est-à-dire que quand on est en train d'écrire un ouvrage, on est dans une bourse de résidence et en fait, la seule chose qu'on nous demande, c'est de donner 5 jours à un lieu culturel ou à une démarche culturelle pour pouvoir avoir du temps pour écrire. Et donc, Camille de Toledo, lui, pendant qu'il écrivait un de ses ouvrages, a imaginé de faire ce qu'il appelait des auditions du Parlement de Loire. L'idée, c'était de dire, et pourquoi pas imaginer que le Parlement ne soit pas un Parlement pour les humains, par les humains, mais d'y intégrer l'environnement dans lequel on vit et qui nous fait vivre. Tous les invisibiliser. Il faut rappeler que même les femmes, hein, elles ont toujours été mises du côté de la nature, puisque seuls les hommes, depuis les Grecs jusqu'à nos parlements contemporains, avaient le droit de citer et la voix pour exercer l'espace politique. Les enfants, n'en parlons pas. Donc là, on se rend compte que dans l'idée même d'être des droits de l'homme et du citoyen, et citoyen, pas n'importe qui. Quand on dit des élus, littéralement, c'est tout simplement ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont dominants. Les femmes hein, n'ont pas été citoyennes jusqu'en 1945. Et donc là, ça a été non seulement d'imaginer qu'on peut repenser un mode de citoyenneté en intégrant les autres qu'humains, et peut-être plus. Et le plus, entre autres, ça a été peut-être d'imaginer effectivement de donner des droits à un milieu de vie. Et là, on saute encore des caps, parce qu'effectivement, jusqu'alors, on va dire que dans l'écologie, on appelait l'écologie environnementaliste, le fait que l'homme, on prenne conscience qu'on est bien dans un environnement, que cet environnement est agressé par toutes nos productions, dont la production industrielle agricole, avec les pesticides, avec le remembrement, avec la farce, pas forcer la grande modernisation hein, de nos pratiques agricoles, qui fait qu'on ne fait plus que de l'agro-industrie et la paysannerie a disparu, à peu près. Ou en tout cas, pensait-on, parce que c'est souvent au moment où on pense que ça disparaît, qu'il y a quelque chose, des forces survivantes, qui essaie sans cesse d'échapper à quelque chose qui va liquider les espaces de vie. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que tout est concentré dans les villes. Et moi-même, je viens d'une culture des squats des années 80. J'ai moi-même refait un squat dans les années fin 90, squat illégal pendant un an, puis légal. Donc, ce type de lieu, c'est des choses que j'ai souvent fréquentées. Et effectivement, dans mon parcours aussi, ça a été de dire, au fond, est-ce qu'il faut faire des friches culturelles dans les villes ou est-ce qu'il faut repenser la dynamique, véritablement, de repenser l'espace politique en dehors de ce qui est attribué par les pouvoirs publics. Et donc, il me semblait intéressant qu'effectivement, de poser la question de faire politique autrement et de déplacer le cadre du Parlement en intégrant des voix qui n'ont jamais existé. Tous les jours, c'est ce qu'on a vu avec le Covid, on ouvre la fenêtre et on était étonné de dire « Ah, autant d'oiseaux, autant de pousses d'herbe à droite, à gauche, autant d'animaux qui se baladent dans les rues, et il ne faut pas longtemps pour que la vie reprenne et que l'espace dit du pouvoir public et citoyen n'a pas la totale mainmise sur le lieu de vie dans lequel on est. Pour ma part, je vis à 500 mètres de la Loire. Je travaille à côté de la Loire puisque je suis prof à la fac et que la fac se trouve pile poil. Mais bizarrement, la fac, la bibliothèque, les beaux-arts tournent le dos à la Loire. Ça a été reconstruit dans les années 45. Ça tourne le dos à la Loire. Ma fac, alors qu'on a toutes les baies vitrées sur la Loire, tous les lieux de sortie sont vers la ville. Donc ça pose une question. Est-ce qu'on est capable de nouveau de revivre, pas simplement dans un environnement indistinct, mais véritablement avec tous les vivants? Et même, tout simplement, moi je suis encore devant vous parce que j'ai bu l'eau de la Loire tant que je peux. Et elle est plutôt bonne, l'eau de la Loire. Et vous savez pourquoi? Parce que celle que je bois, en fait, elle est pompée juste sous le seuil du sable de la Loire. Et vous savez que le sable, puisque un tiers de la Loire est sous le sable, on a une très bonne qualité, puisque le sable permet tout simplement. Et donc, j'ai une eau de très, très bonne qualité. Quand il n'y a pas de soucis d'ordre chimico ou autre, ils mettent très peu d'éléments chimiques pour enlever les micro-organismes qui pose problème. Donc moi, j'ai une eau de Loire plutôt très bonne et elle est pompée jusqu'à côté. Je suis moi ligérien depuis que je suis né, puisque je suis né à Blois et je vis à Tours. Et donc maintenant, justement, je me renomme ligérien, c'est-à-dire habitant de Loire. Je ne suis pas simplement blaisois ni tourangeau, je suis ligérien. Et là aussi, c'est une chose un peu particulière par rapport à ce qu'on va voir là. Là, ce que c'est en fait le polo qui fait des cahiers tous les deux ans, ce qu'elle appelle les carnets. Et là, c'est le carnet de ce qui s'est passé, c'est pour ça que je vais m'appuyer dessus, entre 2021 et 2023-24. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qui fait que le Parlement de Loire, qui était une tentative, des auditions, on demande à des gens, est-ce que c'est possible de vivre avec les autres qu'humains? Est-ce qu'on peut repenser une politique où il y aurait un banc d'humains et 60% de représentants d'autres qu'humains? C'était la tentative d'imaginer ça. Qu'est-ce que ça serait? Moi, je veux bien représenter les anguilles qui viennent des sargasses. Moi, je veux bien représenter les sternes qui viennent d'Afrique. Moi, je veux bien représenter le phytoplancton qui permet à la Loire d'être vivant et d'amener les vivants. Moi, je veux bien éviter que les pesticides m'empoisonnent. Qu'est-ce que ça serait que tous ces gens qui viennent donner voix à tout ce qu'on a invisibilisé ou assourdi? C'est ça la tentative. Et donc il y a une double tentative, ce qui est d'ailleurs assez intéressant dans le titre, c'est d'imaginer peut-être des droits, puisque sans droits, on ne peut pas, faire une interface solide par rapport à des pouvoirs publics qui nient notre condition. De plus en plus, on nous fait dire qu'effectivement, notre condition de vie se détériore, mais on voit bien que depuis 3-4 ans, les États font sourde oreille, voire même on a des niveaux assez réactionnaires, assez gravissimes, depuis la COP21 et autres. Et en plus, il y a le mot « voix », puisque justement, la voix, c'est quoi? Dans le cas des droits de l'homme et du citoyen, les seules voix sont celles qui font effectivement, sont celles qui sont autorisées à parler. Toutes celles qui ne sont pas autorisées, il n'y a pas de voix. C'est silencieux. Et donc l'idée, c'est qu'est-ce qui fait qu'à travers cette idée de Parlement de Loire, on imagine des droits qu'on n'avait pas imaginés avant? Je rappelle simplement qu'en France, c'est en 76, on redonne de la sensibilité animale. On ne peut pas faire souffrir de façon impunément un chien en lui foutant des coups de pied tout le temps. Avant 76, vous savez ce que c'est qu'un animal dans le droit français? Ce qu'on appelle un mobile, un mobilier. Il appartient, c'est une chose qui appartient strictement à son propriétaire. Donc je pouvais casser la table comme je pouvais casser la patte d'un chien. Au fond, je ne risquais rien. 76, il y a l'idée que quand même un animal sent, souffre. Mais ça reste encore dans l'idéologie de dans l'environnement. Et l'environnementaliste des années 70-80, vous voyez, Bourrin Dubourg, enfin tous ces gens-là, les premiers écolos, c'est « Ah, c'est quand même pas bien de faire mal aux animaux, aux phoques, aux chiens. » Mais on n'avait pas l'impression que c'était tout notre milieu de vie qui était en train de ou sur lequel on n'avait plus prise. Il n'y avait plus de politique pour habiter les lieux, pour réimaginer. Et donc, de l'environnementalisme, le problème, il est suivant, c'est que le droit, et dans la politique moderne, on donne des droits simplement à un individu. Vous savez, la modernité, c'est quoi ? Elle est reposée sur un individu de conscience qui a l'autorité de prendre la parole. Si vous n'avez pas ça, vous n'existez pas. Ou vous êtes toujours dépendant de la parole d'autrui. C'est-à-dire, vous êtes représenté, c'est-à-dire, au fait, votre voix est tue au bénéfice d'un quelqu'un qui parle pour tout le monde. Donc, il y a une confiscation du pouvoir. Vous savez qu'on a fait la Révolution française. La Révolution française n'est pas une souveraineté populaire. C'est une souveraineté d'État. C'est des gens, des riches, bourgeois, qui ont enlevé, effectivement, les nobles et l'Église à la tête pour dire, maintenant, c'est la nouvelle bourgeoisie, et on prend l'État. Donc, le problème, c'est qu'on a probablement fait une révolution, mais jamais du peuple pour le peuple. Ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui, pour nous, c'est ça qui est l'enjeu. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'un peuple puisse définir son lieu de vie, non seulement un peuple humain, mais avec tout le milieu, puisqu'on ne peut pas être humain sans que le milieu puisse lui-même vivre et rester dans un état suffisamment de soins pour que l'humain vive dans des conditions honorables. Donc l'idée, c'est d'ouvrir toute cette question-là. Et donc les voix aujourd'hui sont des voix des plus qu'humains, avec les humains. Donc voilà, c'est ça un petit peu l'enjeu. Donc il y a eu pendant deux ans, il y a eu des auditions. Et en 2021, justement, l'idée, c'était ben, qu'est-ce qu'on fait après les auditions ? Donc un livre que je n'ai pas emmené a été fait, un livre collectif qui a condensé toutes les auditions, le fleuve qui voulait écrire, donc Loire. Mais on avait un livre, on avait une intention, mais il n'y avait pas de réalité de terrain. Donc il fallait, en 2021, avoir une réalité de terrain.
Tu peux revenir sur qu'est-ce que c'est exactement ces auditions, déjà, pour qu'on comprenne bien, voilà, en fait, le processus.
Alors, les auditions, la première, effectivement, c'est quoi ? C'est d'inviter des personnes à discuter de cette possibilité, c'est quoi un Parlement de loi. Et l'idée, c'est que, justement, cette idée de Parlement a été prise à Bruno Latour, philosophe qui est décédé assez récemment, qui avait pensé, lui, un Parlement des choses. C'est-à-dire un parlement où il n'y a pas que les humains qui, par la parole, décident du monde. Mais toute chose qui conditionne un champ d'activité, ce qu'il appelle de l'agentivité, est concernée, puisqu'on est vivant, parce qu'on mange du vivant, parce qu'on est pris dans des tissus du vivant, parce qu'on respire de l'air qui est encore vivant. Et donc, c'est tout ce champ-là qui peut être reconsidéré. Donc, l'idée, c'est un parlement des choses. Latour l'avait jeté comme ça, en idée. Camille de Toledo se dit, et si on le faisait atterrir, est-ce que si on lui donne une réalité, qu'est-ce que ça serait ? Donc il fait venir, il auditionne, c'est-à-dire il dit à Bruno Latour et Frédéric Aitouati de venir, est-ce que c'est plausible ? Il demande à une écologue qui travaille à l'université de Tours, qui connaît très bien la Loire, vous, ça voudrait dire quoi de donner voix à la Loire ? Est-ce que vous entendez des poissons ? On dit souvent que les carpes sont muettes, hein. Moi, mais je vais peut-être en parler tout à l'heure, j'ai été très très touché, mais de façon tout à fait sensible, par les anguilles. J'ai pêché l'anguille dès 13 ans, puis je vais peut-être revenir dessus. Je vais avoir une activité avec l'anguille très particulière. L'anguille, depuis l'âge de 13 ans, maintenant j'en ai 40 ans supplémentaires, 75% d'anguilles au moins dans la Loire. Donc elle est en train de mourir. Vous voyez, la Loire, ce n'est pas simplement de l'eau. Vous savez qu'il peut y avoir de l'eau minérale sans vie, hein. L'eau, ce n'est pas la vie, hein. L'eau, c'est du phytoplancton, du zooplancton, et puis derrière, bah, il y a tous les vivants qui viennent s'agréger dessus. Et les anguilles, bah, il faut qu'elles soient accueillies, puisqu'elles viennent des sargasses, vous savez, vers voilà, dans les eaux plus ou moins chaudes là-bas vers nos îles françaises, en dessous là, de tout ce qui est Guadeloupe et tout ça, et ça, donc dans les mers des Sargasses. Vous savez qu'on ne sait pas exactement, on n'a jamais vu d'où elles se reproduisaient, mais a priori, elles se reproduisent à moins 5000 mètres d'altitude. Et elles se reproduisent, c'est une sorte de vaste bouillonnement, comme ça, où toutes les anguilles se tournent autour, une sorte de grande orgie, et laissent des petits œufs qui vont petit à petit remonter à la surface. Et grâce au Gulf Stream, les œufs vont venir monter vers le nord de l'Europe, vers nous, et on aura les anguilles communes chez nous. Les autres vont vers les États-Unis et le Canada. Donc c'est le Gulf Stream qui les emmène, sans quoi elles n'ont pas les moyens de se déplacer. Donc ces anguilles-là, elles viennent dans la Loire pour vivre, et quand elles se sentent justement en situation d'être déjà assez mûres, elles doivent revenir aux Sargasses pour répondre. Et on a le cycle inverse, parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre le cycle des vivants, c'est les saumons. La Loire était, mais ensaumonnée, c'est de la folie. Il y avait des saumons tout le temps, partout. 16e, 17e siècle, je ne sais pas si vous savez, on a les bateaux plats, vous savez, des Loires là, qui remontent, non, jusqu'à Orléans. Les mariniers qui étaient dessus ont stipulé aux propriétaires de dire « On voudrait qu'un jour sur sept ne pas manger de saumon. » Ils prenaient les saumons comme ça. À la barque, ils les prenaient, il y avait des saumons tout le temps. Ils disent « Mais on n'en peut plus, des saumons. » Un truc sauf du saumon, quoi. Un boudin noir, n'importe quoi, mais pas ça. Donc, c'est rempli de saumons. Et les saumons, c'est le cycle inverse, vous savez. Elles vivent dans les eaux froides, là-haut au nord, et elles viennent se reproduire dans nos eaux des affluents profonds. Et donc, c'est intéressant aussi de comprendre que la Loire, c'est pas simplement un lieu où l'homme se met, c'est un lieu où il y a des cycles de vie. Donc, les cycles du vivant, les cycles des eaux, et donc, on est dedans. Donc, les auditions du Parlement de Loire, ça a été en 3 auditions, et puis il y a le Covid, donc ça n'a pas été simple. Auditionner 3-4 personnes pour comprendre, effectivement, la Loire et sa raison d'être, de donner des droits, comment on peut écouter cette vie qu'on ne sait plus entendre, comment on fait autrement science. Alors ça m'a étonné tout de suite. La première audition, ça m'a sidéré. Et deux choses qui m'ont sidéré à la première audition, et là qui m'a depuis me... La première est la chose suivante. On parle effectivement de Bruno Latour. La deuxième chose qui est effectivement le repérage, c'est les droits qu'ont obtenus des milieux de vie ou les droits de la nature ou de la terre-mère qui a été obtenu là, en Amérique du Sud. Donc une des grandes révolutions pour moi, et pas que pour moi, pour toutes ces personnes-là, ce n'est plus l'Europe qui conditionne nos révolutions, ni les pays occidentaux, États-Unis, Canada ou autres. Pour nous, les grandes révolutions à venir, du 21e siècle et autres, viennent de l'Amérique du Sud et centrale. Entre autres, ça a été la longue lutte des autochtones suite non seulement à l'esclavage du 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, mais bien sûr à l'extermination, ou au génocide qui a été opéré sur les Amérindiens du Nord et du Sud. Suite à ça, 19e siècle, les Blancs avaient tout conquis, vous savez ce qu'on appelle la grande frontière, la frontière qui se déplaçait, c'est-à-dire la colonisation des États-Unis, pour mettre le train de New York jusque sur la côte ouest, et on liquide tous les Amérindiens, et vous savez que pour tuer toutes ces populations indiennes, ils étaient tellement futés parce qu'ils connaissaient tellement les lieux qu'on n'y arrivait pas, donc il a fallu disséminer, tuer systématiquement tout ce qui était le lieu, tout ce qui pouvait permettre de se nourrir. Dont ils ont tué les bisons vous savez, ils ont au fusil mitrailleur et ils les ont rectifiés, et pour vraiment les... Et donc on se rend compte aussi une chose, c'est que les génocides sont accompagnés d'écocides, tout le temps. Il faut tuer les milieux de vie, l'eau, d'ailleurs des fois on empoisonnait les puits, on balançait effectivement des cadavres, on tue les bêtes, on brûle s'il faut, mais sans cesse il faut amoindrir tout le vivant, et l'homme à un moment donné, alors qu'il a des moyens d'adaptation, il n'aura plus les moyens d'adaptation. Donc souvent on se rend compte que le génocide est accompagné d'un écocide, et nous dans notre ouvrage effectivement on nomme un autre mot en plus, c'est-à-dire qu'il y a aussi un cosmocide. On tue le monde dont ces peuples sont porteurs depuis des siècles et des siècles, pour vivre dans ces lieux-là, dans les montagnes, près des rivières ou autres. il faut qu'ils inventent des manières de vivre ensemble sur des siècles et des siècles. Et c'est ça qu'on a tué. C'est pas simplement un peuple humain, c'est pas simplement un environnement, c'est tout ce qui permet de vivre dans un lieu qu'on appelle un monde. Et donc, c'est aussi un cosmocide. Et pourquoi l'appeler comme ça? Parce que là aussi, ce qui m'intéresse avec les droits de la nature et de la terre-mère, c'est-à-dire que c'est le principe décolonial qu'il y a derrière. Nos révolutions sont plus occidentales. Elles sont du Sud aujourd'hui. Elles viennent d'Amérique du Sud, elles viennent d'Afrique et elles viennent de certains pays d'Asie. Et donc, ça veut dire qu'ils ont d'autres termes, d'autres manières de faire monde que nous. Et justement, de dire les droits de la terre-mère, pour nous, ça nous offusque. Et les droits de la terre-mère, elles ont été acquises en Équateur et en Bolivie, 2008. Et c'est en Bolivie où ils ont écrit textuellement les droits de la nature et de la terre-mère. Donc on n'a plus simplement des droits de l'homme, on a les droits de la terre-mère comme condition de vie et d'habitation de notre terre. Et donc c'est ce qui fait que pour moi, ben on doit maintenant apprendre des autres, de tous les peuples, de tous les mondes qui ont été composés, et l'Occident ne peut plus se prévaloir de faire son droit international.
Et du coup, implicitement, tu considères que ce sont des succès, ce qui s'est passé en Équateur et en Bolivie, en disant cela?
Alors, le succès, effectivement, il faut voir que là, on parle sur du temps long. Donc, ce qui est intéressant avec la question du droit, c'est que normalement, ça s'interpose historiquement avec les droits occidentaux. Donc là, le droit peut l'entendre. Les occidentaux, vous savez, le droit, l'état de droit à la française, mais aussi la common law. Il y a plusieurs types de droits, vous savez. On a aussi les coutumes, qui sont une norme de droit particulière. Ce n'est pas le droit à la common law ni lié aux États. Et l'idée, c'est que justement le droit peut historiquement dire « imaginons des normes que l'Occident n'avait pas imaginées ». Par contre, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas que la question des droits de la nature, mais la terre-mère dit « la terre-mère ne vient pas simplement des droits, la terre-mère vient de la coutume ». Et la coutume, c'est une norme qui n'est pas du tout liée au droit, du tout. La coutume, c'est comment, avec traditionnellement, des peuples savent vivre avec justement des moments de grands désastres climatiques, écologiques, humains, quand il y a des guerres. Eh bien, il y a suffisamment d'envie et de survivance pour réhabiter le lieu et se redonner encore des possibilités. C'est ça la coutume, hein. C'est pas le côté traditionnel, c'est se réinventer les conditions d'existence ensemble. Et donc c'est ce qui m'intéresse là. Donc effectivement, quand on dit c'est, on peut pas tout de suite le percevoir. Vous voyez qu'aujourd'hui, qui respecte les droits aujourd'hui, l'état de droit, il y en a plus. Hein. Faut être là, c'est très très difficile. L'ONU, elle est plus ou moins là pour ça. Et en ce moment, très clairement, les États ont dit non. Définitivement non. On a bien vu. Donc, mais le droit est là pour interpeller nos normes. Donc en termes de normes, elle nous interpelle en disant « L'Occident, vous n'avez pas le monopole de penser le droit et de penser la nature. Nous avons les nôtres. » Donc l'Équateur, ça a été de repenser les droits de la nature et eux sont très proches du droit occidental. Par contre, là où ça a sauté d'un cran, c'est les droits de la terre-mère. Parce que ça, c'est... Ça existe, ça a existé chez nous, mais on ne l'appelait pas comme ça. Par exemple, dans l'Occident, la terre-mère, par exemple, vous savez, une des déesses de la terre-mère, c'était Cybèle. C-Y-B-E, accent grave, L-E. Et Cybèle ne vient pas de l'Occident. Elle ne vient pas forcément des Grecs et des Romains. C'est venu, justement, de nomades. Et donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que, au lieu de rester sur des États, nations, sur des droits, sur des formes identitaires, accepter que justement des politiques, des normes circulent et on se laisse contaminer réciproquement par des représentations qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est pour ça que moi, une anguille, elle m'intéresse, elle m'interpelle dans mon mode de vie. Quand on me dit terre-mère ou quand on me dit le buen vivir, peut-être que vous avez entendu parler ce mot, le bien vivre, c'est pas simplement faire une bonne politique avec des profits et de la santé publique. C'est vivre avec une communauté d'égal à égal, de considérer les autres qu'humains qui nous nourrissent, Et donc, le bon vivre, c'est quelque chose de beaucoup plus large que simplement de penser des intérêts humains. Donc, les auditions, ça a été ça, ça a été un petit peu. Et derrière les auditions, justement, je vais revenir sur la première audition qui a été quand même un peu un choc. Deux choses. Bruno Latour nous dit, bon, très bien, vous pensez aux droits de la nature en Équateur, les droits de la terre-mère en Bolivie. Il y a le Wanganawi aussi, je ne sais pas si vous avez entendu. Le Wanganawi, c'est une petite rivière en Nouvelle-Zélande. Et un peuple maori a décidé justement de dire « Nous, nous avons des coutumes ancestrales et ce fleuve de 400 km, on la pense comme une divinité. Et on la pense comme étant de l'eau que l'on boit aujourd'hui, mais qu'on célèbre depuis des siècles et des siècles. Pourquoi vous nous avez colonisés et pourquoi vous nous confisquez notre eau ?» Puisqu'aujourd'hui, l'eau est confisquée aux populations au profit de Coca-Cola en Inde, au profit de barrages hydroélectriques, au profit d'industriels, au profit d'eux, mais jamais pour la population. Et donc, c'est retrouvé ça, et le Wanganawi, c'est justement, là, ça a été un des derniers éléments qui était très important pour le Parlement de Loire, c'est de dire tout un milieu de vie est pensé comme un monde, vraiment un monde, pas simplement un pays, un monde. Et là, c'est la lutte maori qui, depuis 150 ans, a pris une tournure, entre guillemets, qui fait justice à une colonisation infâme. Et donc, il a été inventé un truc un peu étonnant, le Te Awa Tupua. Alors, vous voyez, c'est pas rien, ce mot. C'est pas un mot français, c'est pas un mot anglais, c'est un mot maori. Et ce mot dit, eh bien, ils ont inventé une institution hybride entre la common law et la coutume maori. Et les deux sont pensés au même titre. Te Awa Tupua, c'est une institution double. Et là, ça m'intéresse, parce que ça veut dire qu'on pourrait très bien, dans tous nos pays, accepter des institutions hybrides entre des institutions occidentales et des institutions non occidentales. Vous voyez ce que pourrait faire l'Algérie à la France, par exemple. Vous voyez ce que pourrait faire la Guyane, ce que pourrait faire la Guadeloupe, ce que pourrait faire la Nouvelle-Calédonie à la France. Elle pourrait en faire des choses à la France si la France acceptait de nouer des alliances institutionnelles et de penser que le droit, ce n'est pas la France hexagonale qui a son seul mot à dire. Donc moi, ça m'intéresse. Pour tout vous dire pourquoi, c'est que je suis corse et qu'effectivement la Corse a été soumise par la France hexagonale et que nous avons été un peuple pendant longtemps non opprimé, plus ou moins envahi, c'est vrai, mais jamais opprimé par un État. Et donc ça m'intéresse de savoir pourquoi des îles, pourquoi des lieux résistent aux États-nations. Et qu'il me semble qu'aujourd'hui, à travers ça, c'est comment imaginer ensemble, nous des habitants, et moi ça m'intéresse le mot habitant, parce que les habitants c'est moi, un citoyen, mais l'habitant du lieu, comme j'ai dit, c'est l'anguille, c'est la perche, c'est le migrant qui passe, c'est un enfant qui n'a pas le droit de voter. C'est tout ça, les habitants. Et les habitants, ça voudrait dire aussi au pouvoir public, c'est pas vous qui devez avoir le pouvoir. Ça veut dire que si on veut réinventer ensemble des communs, ben c'est avec tous les habitants, tous ceux qui sont là. Et il n'y a pas une hiérarchisation de ceux qui ont le droit de la parole. Là aussi, grosse critique que j'aimerais bien faire et qu'on a fait dans notre ouvrage, c'est nous avons pensé depuis la Révolution française, avec, entre autres avec Rousseau, que la seule façon de bien vivre ensemble serait le contrat social. Vous voyez le double problème avec le contrat social ? Un, il n'y a que l'espace social qui décide. Il n'y a que les hommes qui décident du monde. Seuls les Occidentaux ont pensé à ça. Aucun pays au monde, aucun peuple au monde n'avait pensé que les autres n'avaient pas le droit de vivre, n'avaient pas le droit de s'exprimer. Chez d'autres peuples, un arbre, c'est lui qui donne le savoir. Un éléphant a un savoir. Bien sûr qu'ils ont des savoirs. Bien sûr qu'ils ont la mémoire d'un lieu. Il n'y a pas que nous qui l'avons. Bien sûr, on sait très bien que des grandes forêts ou beaucoup de montagnes étaient des lieux où l'homme savait justement être humble et avoir une humilité pour vivre parce qu'il savait qu'il n'était pas au-dessus du vivant. Donc c'est ça qu'il faut arriver à regagner, d'où effectivement Bruno Latour nous incite au Parlement des choses. On sait maintenant qu'on peut donner des droits à des milieux de vie. Comment faire pour lui donner une réalité ? Mais Bruno Latour dit « Attendez, ces peuples, eux, ils se sont battus. Et ce peuple a encore fait survivre des mondes. Ils ont un peuple. Et il nous dit, est-ce que vous, vous avez un peuple de Loire ? Oh ! Là, il nous a mis un pavé dans la mare. Parce que vous voyez, Blois qu'il y a, Chambord qu'il y a, Amboise qu'il y a, tous les rois de France. Chinon était le lieu des rois et avant de remonter à Paris. Donc nous, nous sommes soi-disant la vallée des rois, c'est-à-dire les rois ont décidé du territoire français. Vous savez aussi que notre langue n'est pas une langue populaire, c'est une langue établie par les rois. La langue anglaise est une langue populaire, pas la nôtre. Elle est décidée d'en haut. On nous a confisqué notre langue. Mes grands-parents parlaient un petit peu, un petit patois du bord de Loire. Moi, ma Corse, ma grand-mère parlait que Corse. Elle a tout fait pour que je n'apprenne pas le Corse. Parce qu'elle me disait, vous n'avez plus de futur au village. Donc, mais voyez, on confisque la langue, on confisque un monde. Donc ça veut dire ça, toute la langue, toutes les voix, c'est tout ce qu'on nous a confisqué. Et donc là, l'idée, c'est qu'est-ce qui fait que la Loire n'est pas simplement accaparée par les rois ou par les chefs d'État ? Mais que tous les habitants réouvrent d'autres manières d'habiter et d'inventer des institutions qu'on n'avait jamais imaginées. Des institutions avec l'eau qui vit et, comme je dis, avec tous les autres cumins. Donc c'est ça le Parlement de Loire. Donc c'est ça cette tentative. La deuxième chose, donc, est-ce qu'on est gardien, est-ce qu'il y a un peuple ? Ça chemine. Et la deuxième chose, c'est les scientifiques. Il y a une écologue et une archéologue qui m'ont là interpellé. Une écologue, elle est en fin de carrière, elle a 60 ans, hein. Elle dit, voilà ce qu'on m'a appris, à échantillonner le réel. Vous savez comment ils font, hein, un biologiste fait un échantillonnage, voilà ce qu'il y a dans l'eau, est-ce qu'il y a des bonnes choses, pas des bonnes choses. Elle observe avec de la photo, maintenant on observe avec les drones. Et elle s'est rendue compte que quasiment elle loupait tout le temps tout ce qui était vivant. Les drones, par exemple, ou les photos ne permettent pas de comprendre où est la vie. La vie, souvent, elle est là où, vous savez, les arbres se dégradent. Il y a beaucoup d'arbres qui flottent sur la... Vous savez, c'est pas trop canalisé, la Loire. Un peu, mais pas trop. Donc, il y a plein d'arbres flottants. Là, il y a plein de vie. C'est en dessous. Bien sûr, vous savez que c'est sur les bords. Les arbres font tomber leurs feuilles. C'est comme en agroforesterie, hein. C'est là, quand les arbres, ça fait des dynamiques du vivant. Donc, c'est pas dans l'eau, hein, dans le cœur d'une rivière, c'est pas là où il y a le plus de vivant. Pas du tout. C'est sur les bords, c'est là où ça germe. Et ça, elle ne le voyait pas. Et puis, à un moment donné, son mari dit « Mais tu sais, moi, je nage en Loire. Tu veux pas venir avec moi ?» Merde, putain, elle a mis les palmes, elle nage dans la Loire, elle met le masque. Et elle se rend compte d'une chose, elle ne voit rien quand elle plonge dans la Loire. Mais rien. Ça tourbillonne tout le temps. Il y a du sable, des algues, du machin. Il y a des tourbillons partout, il y a des poissons qui sautent. On ne peut pas échantillonner le réel, on ne peut pas faire la clarté sur le vivant qui bouge. Impossible. Comment je vais pouvoir redonner de la continuité écologique alors que toute la science est faite pour la discontinuité ? Eh bien, elle est en train de remettre en chantier comment on fait pour reproduire une science sensible, ou je ne sais pas comment appeler ça. La deuxième, c'est une archéologue. Les ponts à Tours ont été tous bousillés par les bombes allemandes et compagnie. Ça a bousillé les ponts, et vous savez que la Loire, elle est très ensablée, hein. Et donc, on a beaucoup de formes archéologiques. Et l'archéologue retrouve une barque complètement ensevelie dans le sable et elle retrouve des jarres, des pots. Vous savez que de Nantes à Orléans, on avait beaucoup, beaucoup de vin. Vous savez, le fameux vinaigre d'Orléans, c'est parce que le vin... Et donc, on avait des jarres, on avait des boulets de canon. Et elle commence, comme une archéologue, à mettre les mains dedans. Puis allez, on y va, et on y va, et on met au musée. Ça me rappelle une histoire de tout à l'heure. On met au musée. Et puis, à un moment donné, elle commence à comprendre que le milieu dit dans lequel elle vit, c'est pas de la terre ferme. Ça bouge tout le temps. Elle enlève, il y a du sable qui se déplace. Elle enlève, sur le boulet, il y a plein d'algues. Elle enlève, c'est un poisson qui ne peut plus manger. Et là, elle s'arrête et dit, merde, est-ce que je continue ou pas ? Eh bien, elle a arrêté. Elle dit, la moitié, je vais le mettre en réserve pour les humains, et pour l'autre moitié, je vais la laisser à la Loire. Et ça devient non seulement plus un patrimoine mort, ça devient en partie du patrimoine vivant, mais surtout, elle dit, c'est Loire qui est encore vivante et que je suis en train d'arracher. Et elle sait qu'elle fait de l'extractivisme scientifique. Oh ! Là, elle aussi, elle a 60 ans, elle est bientôt, et elle est archéologue là au chantier de France, hein, donc c'est une des plus grandes archéologues en France et marine. Et à la fin de sa carrière, elle dit « Merde, il va falloir que peut-être que je change toute ma façon d'appréhender, de faire patrimoine. » Parce que vous savez, cette Loire, elle est connue pour le patrimoine. Un patrimoine statique, la belle image. Donc voilà tout le Parlement de Loire à quoi il sert. Ça va à peu près ? Non ? Ouais.
Attends, je vais te passer le micro.
Merci. C'est une question à la retourne, c'est-à-dire qu'il me revient en mémoire qu'à une époque déjà reculée, la Loire, il était question de la canaliser.
Alors, c'est une bonne question. La Loire, en fait, souvent, ça aussi, c'est un peu le problème. C'est qu'en Occident, vous savez, on nous dit, on nous a fait un partage toujours nature-culture. Et on nous dit, effectivement, on a trois grands fleuves canalisés et la Loire serait peut-être un peu plus sauvage. Elle l'est à certains endroits, mais elle n'est pas sauvage. Elle a été cultivée par les hommes. Parce que tout simplement, le problème entre culture et nature est de toute façon mal posé. La nature aussi s'enrichit de savoir jardiner les lieux. Et inversement, quand l'humain est capable de ne pas mettre d'empreinte sur un lieu, il laisse les dynamiques du vivant se faire. Il sait parler avec les dynamiques du vivant. Et donc, j'aime pas trop quand on pose Loire naturelle et... Non, la Loire est endiguée parce que, tout simplement, si... vous savez que la proto-industrie a été inventée au moment où on a colonisé les Amériques par les plantations. Avec les bananeries et tout ça, c'est quoi une proto-industrie ? C'est de faire d'un lieu, de le canaliser, de faire une seule activité, donc de faire de la bananerie ou du cacao ou du sucre. Et de faire que tout est fait à l'horizon de cette production. On met des humains, on met des bêtes, on met de la force de travail, c'est ça l'industrie. Après, on aura l'industrie fossile, avec le charbon, mais la première industrie, c'est la force humaine, la force animale, la force végétale d'ailleurs, c'est une force, et bien sûr la force de l'eau. Et donc, pour faire la proto-industrie, il faut des humains, et l'eau va être considérable pour ça, parce que ça va être le début des premiers moulins. Et donc, la Loire va être envahie de moulins. Sur les ponts sont habités, hein, vous savez, comme en Italie, ils étaient habités les ponts sur la Loire. Et ils étaient arrimés plein de moulins pour prendre les céréales, les travailler, tout ça. Donc la Loire, elle était faite plein de moulins, et on commençait à faire aussi des trains de navires. Il y avait 5, 6, 7, 8 navires qui étaient encordés et qu'on remontait. Alors soit il y avait le vent, c'était bien, et s'il n'y avait pas le vent, bah, c'était l'animal qui était sur le côté. Donc c'est là où on commence à faire des levées pour mettre l'attraction animale, et par la suite pour dire oh, « attention, et si l'eau déborde ?» Et c'est à ce moment-là aussi où on va complètement assécher les marais, le plus possible, autour de la Loire, 16-17e siècle, donc la proto-industrie. Par contre, c'est vrai que la Loire, ce qu'elle a, c'est que par rapport aux autres, c'est qu'on a un limineur, ce qu'on appelle là où l'eau circule, et un limoyen, et nous on a un limoyen, c'est-à-dire que la Loire, avec les crues, elle est capable de s'étaler et de revenir, de s'étaler et revenir. Donc on a une grande biodiversité sur les côtés. Il n'y a pas que l'eau qui coule. Ça, c'est très intéressant sur la Loire. Et puis, on a un peu de méandre. Hein, vous savez, les méandres, c'est là où le fleuve, bah, c'est lui qui se délimite un peu. Par contre, les deux gros phénomènes qui étaient problématiques sur la Loire, ça a été les barrages, le loisir, les barrages pour les centrales nucléaires. Et ça a été le dragage de la Loire. On a arraché tout le sable, on l'a éventré, pour la reconstruction d'après-guerre, pour faire du béton. 90, on a tellement bousillé la Loire que là, on dit, bon, on arrête tous les dragages, c'est pas possible, on est en train de la tuer. Donc aujourd'hui, la Loire, on a enlevé beaucoup de barrages, mais pas tant que ça. Il reste un, là où j'habitais pas loin, c'était pour la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, entre autres. Mais ça, c'est le problème de la Loire. Donc si j'ai quelques minutes pour vous présenter, en 2021... Les auditions s'arrêtent, mais qu'est-ce qu'on fait sur place ? Et c'est là où on a imaginé en 2021 des assemblées de Loire et voir si plusieurs structures étaient prêtes à imaginer un Parlement de Loire, peut-être imaginer des droits et des actions territoriales. Et donc là, on est plusieurs à être rentrés dans le jeu. Donc le Polo, la MSH, c'est, vous savez, les maisons des sciences humaines, c'est plutôt universitaire. On a la Rabouilleuse, c'est une association qui fait les bateaux de Loire, la sensibilisation de Loire, qui s'appelle École de Loire. Donc elles fabriquent, mais elles fabriquent empiriquement. C'est-à-dire qu'en fait, ils naviguent sur la Loire et ils ont fait des bateaux avec des architectes, mais sans plan. En force de naviguer, ils ont dit, tiens, pourquoi pas comme ça, le carénage, le machin. Moi, je suis dedans parce que bon, j'écris à côté, mais j'ai aussi à Tours une université populaire, je suis dans les quartiers sociaux. Et en partie, j'ai aussi bossé sur la question des communs, sur le décolonial. Donc on m'a dit, penser les communs avec nous, penser le décolonial. On a aussi une guinguette qui est passée à Tours et qui a pas mal de... Et cette guinguette aussi fait partie de l'aventure. On a Loire Sentinelle, hein, des gens qui ont travaillé là-dessus. Alors ça, c'est Mission Val de Loire UNESCO. C'est ceux qui sont responsables de l'UNESCO sur les 400 km de Loire. Et ils ont demandé à Loire Sentinelle, qui ont fait ce truc-là, c'est deux personnes qui sont scientifiques et qui font de la science citoyenne. C'est-à-dire que c'est eux qui font leur propre expérience pour ne pas avoir des expériences simplement liées à l'État et qui fait que des fois, on arrange les résultats pour ne pas voir. Et là, eux, ils ont fait toute la descente de la Loire pour voir les microplastiques. Et donc, c'est une science citoyenne de microplastiques pour ne pas dépendre d'agents extérieurs. Donc, il y a toutes ces personnes-là, et d'autres que j'oublie, Liguéré, des gens qui sont plutôt dans la médiation culturelle, maintenant, ils sont dans la médiation artistique, mais c'est des gens qui ont été, qui ont travaillé entre autres avec Bruno Latour. Donc c'est des gens qui sont justement sur cette dynamique-là. Et justement, avec ces assemblées de Loire, on essaie d'avoir sur le territoire différentes actions. Alors je ne vais pas tout dire. Maintenant, effectivement, on s'est nommé un collectif vers un Parlement de Loire. Le Parlement de Loire, ce n'est pas faire un Parlement et puis avoir des représentants, c'est se dire où on vit. Avec un collectif qui a plusieurs ambitions à différents endroits, scientifiques, éducation populaire, artistique, pour être sur le territoire. Une des grandes phrases qu'on aime, c'est « Nul n'est censé ignorer la Loire », hein, on pourrait dire la loi. Et la deuxième chose aussi qu'on a fait, c'est que, vous savez que maintenant, nous, on appelle le Parlement de Loire et pas le Parlement de la Loire. Gros truc, là, vous voyez la différence? La Loire, c'est encore un objet, c'est encore une chose qui dépend de l'homme. Loire, c'est un nom propre. Elle vit pour elle-même, c'est un être. Donc Loire, on n'appelle plus nous la Loire, c'est plus un objet, c'est plus une chose qui dépend des hommes, c'est un être à part entière. Donc nous sommes des habitants de Loire, c'est-à-dire un corps vaste, plus gros que nous, plus étrange, qui serpente comme ça, avec les affluents. Et c'est quand même un cinquième de la France qui se trimballe comme ça avec des eaux qui serpentent pour aller vers l'Atlantique. Donc qu'est-ce qui fait qu'on représente cette espèce de monstre un peu informe? Et donc c'est Loire. Là, c'est une des artistes un petit peu landart qui justement pour essayer d'imaginer c'est quoi un parlement. Elle dit justement c'est plus un parlement fermé, mais ça doit être à ciel ouvert. Et ça doit être sur le lieu où les conflits émergent. Ça m'intéresse ça. S'il y a un problème dans la Loire, il faut se mettre les pieds en l'eau. Ce n'est pas possible autrement. Vous savez que des juges peuvent juger d'un problème de l'eau, mais jamais en étant venu sur le lieu. Jamais. Ce n'est plus possible. Il faut que les juges puissent venir, il faut que les scientifiques viennent sur le lieu où les conflits adviennent, où l'eau est en train de mourir, d'être pesticidée. Il faut que les gens viennent. Donc là, l'idée, c'est de dire « Loire est une personne et elle nous accueille ». Et les représentants, ce n'est pas simplement des représentants humains, c'est les eaux, les phytoplanctons qui sont ici, et c'est surtout à ciel ouvert. Ça serait quoi de penser des parlements qui ne sont plus des parlements fermés, des boîtes noires, qui causent tout le temps, mais d'entendre comment la Loire souffre. Et comme dit Latour, la Loire a un tempérament, elle n'est pas la même. Les animaux ont des tempéraments, ils ne sont pas les mêmes. Hein, ce n'est pas des objets du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas des objets scientifiques.
Nous dire le nom de la personne qui a fait ce dispositif.
Zazou. Là, c'est pour dire les différents acteurs. Donc, le Polo, Liguéré, j'en ai parlé, Mission Val de Loire, l'Université Populaire de la Terre, c'est nous, la Maison des Sciences de l'Homme, la Rabouilleuse École de Loire, et le Petit Monde, c'est la Guinguette. La Guinguette a fait tout l'été ce qu'elle appelait une guinguette du peuple de Loire, et donc elle a fait venir différents arts, voire même des rituels en Loire, pour dire qu'on ne fait pas simplement une guinguette pour boire des coups, mais parce qu'on est inscrit dans la Loire, et là, ils sont vraiment là, quoi. Ils sont sous le pont, qui s'est, en 1980, effondré, et qu'il a fallu reconstruire. Donc ça, c'est les différents acteurs. Là, c'est pour dire tout le linéament qui est en train d'être construit depuis 2019 jusqu'à 2024. Alors, c'est pas pour dire, mais voilà. Les auditions 2019-2021, les assemblées de loi, c'est ce que je vous dis, un collectif est en train de naître. Il y a un truc qui aurait été bien. Attends, ils sont où ils l'ont pas mis, mais il y a un truc qui était super. Vous savez que la Loire, depuis 1969, n'est plus, on peut plus s'y baigner. En 69, en fait, vers Angers, un groupe d'enfants, c'était une petite colo, vont sur la Loire, ça paraissait tranquille, ils sont une vingtaine, et je ne sais pas si vous avez fréquenté la Loire, mais pour l'avoir fréquenté, parce que j'ai non seulement pêché sur le bord, mais les pieds dans l'eau, donc j'ai pu traverser la Loire, comme j'ai pu aller en montagne, j'ai pu aussi traverser la Loire, et à un moment donné, je me suis confronté à ce que des fois on appelle les sables mouvants. Mais ce n'est pas des sables mouvants. Vous savez ce qu'on appelle ça? C'est des culs de grève. Les culs de grève, c'est que les sables se dépassent. Et qu'un amas de sable, à un moment donné, peut faire 50 cm, 1 mètre, voire 2 mètres de haut. Et en ce moment, si vous y allez, vous allez voir, il y a des fois 2 mètres de haut de sable. Le sable s'accumule. Quand l'eau remonte, bah, vous ne voyez pas la partie. Donc, à 1 mètre près, je vous assure, à 1 mètre près, vous êtes ici, vous êtes à 2 mètres. Vous mettez celle-là, c'est terminé. Vous plongez. Des fois, c'est que 1 mètre. Et donc, ça m'est arrivé quand j'ai pêché le petit, parce que j'allais pêcher le gardon, la blette et tout ça. J'étais un ami, heureusement, parce qu'il m'arrivait de tomber dans un cul de grève, moi aussi. Mais pourtant, on était à un mètre d'écart. Hein. J'ai pris un mètre. Donc, ma jambe gauche s'est complètement lisée. Elle est partie. Qu'est-ce qui se passe dans le cul de grève? C'est que non seulement, c'est comme une avalanche de sable. Votre jambe est partie, elle se recouvre. Mais si tout votre corps part, vous êtes pris dans le sable, vous savez, comme, et donc vous étouffez dans le sable. Et vous savez comment faire, hein, faut pas se débattre à ce moment-là, c'est comme faut pas se débattre. Normalement, il faut se laisser aller, mais j'espère que ça va pas m'arriver. Il faut avoir du zen. Parce que normalement, la dynamique vous emmène. Normalement, il faut faire la planche, vous gardez votre... Et il faut pas, bien sûr, respirer le sable. Et vous vous laissez, normalement, 10-15 mètres plus loin, vous récupérez le courant, et là, vous réémergez. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens se noient parce qu'ils se débattent, ils savent pas comment faire, et pendant 10-15 mètres, ben là, ils se noient, terminé. Donc là aussi, il y a un apprentissage. Eh bien, et comme les gens, on a vu dans le Covid que tout le monde était au bord de Loire parce qu'on s'était invivable, les gens prenaient peut-être aussi des risques. Comment faire? Eh bien là, le polo, avec nous, on s'est auto-saisi avec l'agence d'urbanisme en disant, voyons pendant un an, est-ce qu'on peut remettre la possibilité de nager en Loire? Et là, la ville de Tours était furieuse. Elle dit, mais attends, c'est nous les pouvoirs publics. C'est nous qui décidons de l'aménagement du territoire. C'est pas vous, l'espèce de truc d'art, là, qui va nous emmerder. La mairie est citoyenniste et verte. Hein. Mais c'est pour le principe. Vous voyez, la mairie prend les pouvoirs publics. C'est pas les habitants qui doivent se munir de l'espace. Ça, c'est intéressant. Donc, on s'est muni de l'espace. Alors, on a été, nous aussi, un peu auditionnés. On a été voir le maire aussi de ce village-là, qui n'est plus là. Mais, eh bien, voilà. Donc, on a mis en chantier l'idée de, est-ce qu'on peut réapprendre à nager? Et c'est très, très particulier de nager dans les rivières, vous savez. Et donc, moi, je sais, il faut faire attention. Et dès que vous êtes en cul de grève, pourquoi les gens se sont noyés? Non seulement ils ont glissé, mais à 50 cm près, vous avez un débit, mais alors qui vous emporte 30 mètres loin. Moi, je nage comme ça, tranquille, sur le bord. À un mètre près, je fais un crawl. En crawl, je ne le tiens pas. Je pars direct. Donc là, ça veut dire qu'il faut savoir hein, où vous mettez les pieds, mais c'est apprendre ça. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qui fait que, bah, aussi, arpenter la Loire, comme on va en montagne normalement quand c'était difficile, il faut savoir réarpenter la Loire. Mais il faut des gens qui... Donc voilà, donc, c'est un petit peu l'idée. Là, je vais vous parler de moi un petit peu. J'ai fait une lecture performée qui s'est appelée Anguille-Anguille. J'ai fait la performance sonore, machin, dans des squats dans les années 2000. Je ne peux plus travailler dans l'espace fermé comme ici. Là, je parle avec vous, c'est bien, mais je ne peux plus, moi, travailler. Il me faut des forces avec lesquelles travailler. Je pars des forces du milieu. Je ne peux plus venir comme ça avec un micro, dire « Ouais, c'est bon !» on, in, off, et puis je démarre mon truc, je ne peux plus. Et donc, ce que j'ai fait, c'est quand on a initié les assemblées de Loire, la plupart ont été dans un centre d'art discuter, et moi, j'ai dit, bah non, je vais sur l'île à côté, et je vais faire une performance rituelle. Donc, j'étais sur le sable, directement à même la Loire. 3 jours avant la performance, je ne pouvais pas la faire. En fait, il y a eu de la pluie une semaine avant, les barrages régulent les eaux, ils avaient fait un lâcher d'eau, j'avais plus de sable. Il y avait 50 cm d'eau. J'ai attendu la veille pour que je puisse faire cette performance. Et cette performance, c'était quoi? Eh bien, je me dis 70% d'anguilles en moins. Eh bien, je me suis moi-même transformé. J'ai pris une face humaine et autre qu'humaine. J'avais une face humaine adressée à la Loire. Et pendant 6 mois, j'ai pris une souche d'arbres dans la Loire. Je l'ai sculpté pour en faire un masque et pour, avec les gens qui allaient voir ce qui se passait, leur offrir un masque non humain. Pourquoi j'ai pris une souche? Parce que si vous connaissez la technique de la pêche à l'anguille, en fait, une anguille traîne au fond de l'eau. La nuit, on la pêche la nuit. Elle remonte parce qu'elle n'aime pas du tout la lumière, mais elle remonte à ce moment-là. On la pêche à ce moment-là. Quand vous la ferrez, vous voyez, quand elle sent qu'elle est prise, elle va, le réflexe, c'est de plonger vite au fond, s'entourer justement autour d'une souche ou d'une pierre. Elle tourne et je vous assure qu'elle va casser la gueule, hein, mais elle ne lâchera pas. Donc si vous ferrez, il faut normalement la traîner légèrement, tirer, et là c'est un truc, c'est une sensation. Vous la menez à pied, vous savez que quand vous la menez, elle a 30 minutes, elle a des branchies pour tenir 30 minutes hors de l'eau. Ça devient un serpent. Elle a une muqueuse qui permet d'aller n'importe où. Et donc, quand vous la prenez, c'est imprenable. Donc, si vous êtes pêcheur, normalement, vous prenez un tissu, vous la prenez là, vous la chopez. Au moment où vous la prenez, vous pensez que vous êtes maître de l'animal, l'animal fait quoi? Mais il fait ce qu'il fait en temps de survie. Il s'entoure autour de vous, mais avec une force considérable. Ça saisissant, elle me saisit. Il faut donc prendre la queue, tirer comme ça, gna 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 gna, et là, elle vous laisse tout le mucus autour. Et là, vous vous rendez compte de la force et de ce que c'est que le vivant. Donc depuis que je ne peux plus faire ça, et je ne le fais plus parce que je sais qu'il n'y en a plus, eh bien je me suis dit, je vais m'adresser à Loire pour refaire venir mes anguilles de l'autre côté qu'on avait spolié il y a 500 ans de ça. Et donc je me suis fait un masque et je me suis appelé moi maître anguille, c'est-à-dire un intercesseur, en m'adressant à la Loire, et j'ai pris 2 danseurs. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, les mots pour dire les anguilles en science, c'est anguilla, anguilla. Mais c'est scientifique. Moi, je me suis dit, il faut un récit à la Loire. Donc, anguilla, anguilla sont devenus pour moi les anguilles ancestrales. Hein, vous savez, pour faire qu'il y ait des ancêtres, pour faire refaire la vie, il y a toujours des jumeaux qui refont la vie. Des jumeaux de 2 sexes différents ou des fois pas 2 sexes différents. Et donc, j'ai redemandé à mes 2 danseurs d'être ces 2 anguilles ancestrales pour redemander à la Loire de refaire venir toutes mes anguilles. Et j'ai fait un travelling de 100 mètres pour m'adresser. Si je vous dis ça, c'est que ça reste une performance. Sauf qu'il a fallu que je la ritualise avec un des amis qui m'accompagne au Gros Cas, qui est guadeloupéen, qui le fait normalement lors de rituels justement publics. Et puis, ce qui m'est arrivé aussi, c'est pour dire que j'aime bien quand je travaille avec des forces que je ne peux pas prévoir. C'est un jour avant, je n'avais pas de lieu pour exercer. Ça m'intéressait. Je me disais, merde, qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire? Je n'avais pas pu répéter. Et donc, j'ai répété 2 heures avant avec un micro HF dont mon truc un peu... Ça pesait lourd, quoi, c'est un truc. En fait, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est un masque avec une souche et j'ai mis des branches pour refaire, vous savez, comme méduse, qui était entre méduse et des anguilles. Pourquoi? Parce que ça me permettait de parler au nom de Maître Anguille, au nom de Loire, au nom des anguilles... et de l'hydre capitaliste, celle qui nous tue nos moyens d'existence. Et 2 heures avant, vous voyez ce qui m'arrive, on met du HF, et j'y vais, et à un moment donné, je jette des sorts, littéralement, à mes 2 anguilles. Je les condamne, quoi. Et en fait, je jette 15 sorts, parce qu'en fait, il y a 15 situations qui tuent nos anguilles actuellement. Donc je jette des sorts, et les anguilles prennent chacun des sorts que je leur jette, et se fracassent dans l'eau et s'éteignent. Donc je gueule d'un coup, et au moment où je gueule, parce que je les tétanise, je me rends compte que la Loire me répond. C'est-à-dire qu'en fait, le son des enceintes ricoche sur la Loire, la levée revient vers moi, et j'ai l'écho de la Loire qui m'en vient. Donc il y a l'écho de la Loire, et pendant ce temps-là, j'avais demandé aussi à mon maître des cérémonies de demander à tous ceux qui étaient derrière moi, on était à peu près 80, 90 ou 100, à chaque fois de refaire aussi un écho, dès que je prononce le mot Loire, pour être un peuple de Loire, devait prononcer à chaque fois Loire. Donc ils étaient là, peuple Loire, un Loire. Donc j'avais un écho derrière, et à un moment donné, la Loire me faisait écho. Donc je rentrais dans cet écho-là. Donc voilà, moi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la question du Parlement de Loire m'a permis, moi, de repenser une réinscription d'un habitant autre qu'humain, et d'introduire du rituel dans l'art. Voilà ce que ça m'a permis. Je ne l'avais pas refait depuis. Donc je l'ai fait en 2021. En 2023, j'ai fait une procession rituelle de 2h30. Là, par contre, c'était un peu plus complexe. Et là, c'était pour décoloniser la Loire. En fait, il y avait une expo de 30 artistes au CCCOD, le Centre de création contemporain. Mais là, il y avait 30 artistes réunionnais. C'était l'occasion pour moi de dire, bah, au fait, la France n'est pas que cette petite parcelle, c'est toutes les îles qui la composent. C'est une terre-monde. Et donc, il a fallu que je remette dans la langue française d'autres mots que langue française. Et donc, avec une poétesse qui est, comme moi, corse et réunionnaise, et une jeune femme aussi qui fait des rituels de fleuve, on a fait une procession. Donc ça, c'est pour dire aussi que c'est l'occasion d'inventer des modes d'existence. Non, là, j'ai pas d'image. J'ai pas voulu les prendre tout de suite parce que je pensais qu'il y avait tellement de choses à dire. Mais là, c'est pour dire, voilà, en tout cas, que... Et en 2025, c'est la prochaine. Et pour tout vous dire, en 2025, qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être, moi, me greffer sur un truc que je ne connaissais pas. La rabouilleuse d'école de Loire, en fait, a découvert, à côté de chez elle, puisqu'elle est au bord de Loire, vers Saint-Pierre, un temple rituel de Loire, dans la Loire. Et qui date probablement du 3 au 4e siècle après Jésus-Christ. Donc je vais peut-être là, non plus simplement réactiver dans l'île quelque chose, mais peut-être voir auprès de cet ancien lieu rituel ancestral, de voir si je ne peux pas recharger avec d'autres Ligériens ce lieu ancestral. Par exemple, hein, comment faire pour... Et au même moment, des archéologues justement ont trouvé deux statuettes, une statuette représentant Cybèle et une statuette de figurine, probablement déesse des eaux, mais on ne sait pas si c'est Loire ou quoi que ce soit. En tout cas, on a redécouvert des statuettes récemment dans la Loire.
C'est où?
Eh bien, c'est vers Saint-Pierre-des-Corps, Notre-Dame. Là, il y a un petit lieu qui est quand l'eau descend, un lieu de... Donc ça, c'est intéressant de me dire, bah, tiens, comment réactiver ça? Donc voilà. Alors, je vais essayer d'aller vite. Alors, qu'est-ce que c'est ça aussi? Une chose aussi qui est apparue depuis 2021, 2023 et 2025, c'est un grand moment. Alors là, c'est tout ce qu'il y a, mais je ne vais pas le dire. C'est la grande remontée de Loire. En fait, ceux qui sont dans la rabouilleuse, donc qui sont des mariniers, qui inventent les bateaux, ont demandé à tous les mariniers entre Nantes et Orléans de se dire, est-ce qu'ensemble, on ne peut pas remonter toute la Loire pour montrer qu'il y a une culture ligérienne très ancienne, vernaculaire, peut-être ancestrale, et on va montrer qu'il y a peut-être un peuple, mais il faut le faire monter. Donc là, l'idée, c'est de faire monter des voies de Loire. Donc l'idée, c'est qu'il y a des escales tous les soirs, il faut bien que les mariniers s'arrêtent, bouffent, échangent. Et donc il y a des escales pour sensibiliser, des escales scientifiques, culturelles. Et à chaque fois, c'est aussi l'occasion de découvrir les personnes qui habitent à côté de Loire. Et là, pour tout vous dire, 2021, les gens, a priori, ne comprenaient pas trop, ils étaient un peu distants. 2023, les riverains viennent vraiment vers le lieu. C'est vrai que c'est assez surprenant, hein, une dix-quinzaine de bateaux les accueillir. Et là, pour tout vous dire, 2023, Sophie, donc ma compagne, l'idée, c'est que sur les bateaux, il y avait aussi des gens qui pouvaient faire des résidences de 1, 2, 3 jours pour voir qu'est-ce que c'est que la Loire. Et Sophie fait 2, 3 jours avec Bruno Marmiroli de Mission Val-de-Loire et s'arrête dans un lieu, à Mont-de-Jean, proche de la plus grande île de Loire, 10 km, qui est submersible, avec des digues submersibles. Et ils apprennent qu'un peuple de Loire habite le cœur de Loire depuis 500 ans, de façon vernaculaire, la Loire. Ils vivent avec les crues de Loire. Et bien même la personne qui représente Mission Val-de-Loire, UNESCO, ne le connaissait pas, ce savoir vernaculaire. Et donc, c'est les habitants qui disent, nous, on a besoin de vous, pourquoi? Parce que ce savoir se transmet de génération en génération, sauf qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui arrive et ils ont du mal à accepter de nous la transmission. Et puis, on a le préfet qui met une pression formidable pour nous enlever. On est 400 habitants, on sait que les eaux montent, et bien ils veulent nous chasser. Et puis aujourd'hui, les digues submersibles, c'était les habitants qui faisaient les digues, qui les construisaient, qui savaient comment travailler avec l'eau. Et bien maintenant, vous savez qu'on ne peut plus faire ça par nous-mêmes. Il faut demander à des agences d'urbanisme. Et puis l'État dit, nous, on ne veut plus mettre d'argent là-dessus, ce n'est pas nous. Et donc, ils sont en situation de faire une demande, hein, de commander. Il nous faut transmettre des savoirs vernaculaires ancestraux de la Loire. Et donc, ma compagne, avec Mission Val-de-Loire, se sont lancées dans ce qu'ils appellent une école territoire de Loire. Qu'est-ce que ça serait de faire école, non pas sur la Loire, mais que la Loire soit un territoire qui fasse école? Vous comprenez la, toute la différence ? C'est la Loire qui va nous apprendre à habiter et à vivre ensemble. Et ce n'est pas une école républicaine. L'école républicaine, c'est on met l'école n'importe où, une résille, et c'est administratif. Là, l'idée, c'est que non, c'est on vit avec les habitants de Loire, et c'est les gens de Loire qui vont nous apprendre, la Loire va nous apprendre. Et donc là, il y a deux chantiers qui vont être menés à Chalonne-sur-Loire, sur cette île. Et à côté de chez nous, nous, on a une petite presqu'île à côté de Tours, puisqu'on appelle ça le bec du Cher. Le Cher se jette dans la Loire. Et il y a toute une zone assez humide où maintenant, on a enlevé un peu les marécages, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent en maraîchage et en bio. Et là, l'idée, c'est que le maire se dit bah, moi, effectivement, j'ai plein de néo-ruraux qui viennent et ils ont peur des crues. Parce qu'à part la digue. Et puis, on ne sait pas avec quoi avec ce fait. Donc, l'idée, c'est comment les habitants réapprennent à vivre leur lieu de vie et pas dépendre du savoir des autres. Donc, voilà, là aussi, c'est une initiative nouvelle. Comment faire d'un lieu, un territoire de vie, une école d'une autre nature. Je ne sais pas si on va continuer. Alors, là, c'était pour mettre les images. Voilà, là, quand la grande remontée, les bateaux qui remontent, l'entraide. Donc, ça, c'est la Loire et le bassin versant, c'est un cinquième de la Loire. Et vous voyez que quand je parle de crues, c'est qu'effectivement, si nous, on n'a pas les glaciers qui fondent, hein, parce qu'on n'a pas de glaciers, ils sont inquiets, hein, beaucoup pour le Rhône et pour la Garonne, mais nous, c'est les pluies. Mais on a des pluies, vous savez, des pluies sévenoles et des pluies qu'on a vues là, un peu catastrophiques en Haute-Loire d'un coup, et qui nous fait des crues, vous savez, très rapides, et on ne sait pas comment les gérer. Donc, on ne sait plus comment faire ça. Et donc, l'idée, c'est comment, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi politiquement, comment créer une politique des interdépendances. Ça, c'est vraiment, pour moi, essentiel. La politique moderne, vous savez, c'est quoi ? C'est un individu est indépendant, conscient de lui-même. Donc, la liberté pour tout le monde, c'est « je suis indépendant ». Et même les politiques de gauche, hein, l'autonomie, l'indépendance. Sauf que quand tu vis dans un milieu de vie, bah, tu es toujours dépendant de ton milieu de vie. Et donc, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'acteurs écologiques, même de gauche, commencent à penser qu'est-ce que ça serait qu'une politique des interdépendances et pas simplement l'indépendance, l'autonomie par soi-même, entre hommes. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, de très nouveau, de très étonnant. Voilà, après, là, moi, j'aimerais bien peut-être qu'on aille plutôt sur des questions, des choses. Alors, vous voyez, ça, c'est lorsque, des fois, il y a un soir où les gens s'arrêtent, les bateaux se posent, c'est des moments d'assemblée comme ça, un peu populaires, discuter. Et on est directement sur la Loire et pas dans des institutions fermées. Alors on peut peut-être commencer à ouvrir la parole.
Oui, carrément, on va prendre des questions. Alors, on va commencer. Je fais passer le micro, bien sûr, pour les questions.
C'est pas une... Et y a-t-il des relents druidiques ?
Ah ! Des relents druidiques. Là, tu parles, est-ce qu'il pourrait y avoir des formes une écologie qui reprend en charge des formes quoi, un peu spirituelles ou des formes qui redonne cause à des lieux qui sont consacrés, pas simplement à l'homme, c'est ça ?
Oui, je pense à, tout simplement à ces découvertes dans les lieux religieux, semble-t-il.
Alors, pourrait parler ça religieux, si religieux c'est relié. Alors druidique, je sais pas, parce que c'est bon, dans tous les cas, effectivement, c'était bien en Bretagne, et une partie de la Bretagne fait partie de la Loire en partie. Le bassin versant s'ouvre aussi un peu par là-haut. Alors, je sais pas, la question c'est peut-être pas tant de renouer avec des pratiques ancestrales comme ça, de dire au fond, il suffirait de retrouver. Le bon état d'esprit, la bonne déesse mère, parce que tout simplement, on ne peut pas ne pas penser qu'on nous a politiquement coupé nos moyens d'existence, de faire communauté ensemble et de réapprendre à vivre avec les autres qu'humains. Ça, c'est une réalité et on n'invente pas d'une baguette magique un peuple, on n'invente pas nos cultures d'un peuple. Donc justement, je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qui fait que en Occident, il y a le politique, par exemple, et il y a l'art de l'autre côté. L'art, c'est la dimension symbolique, c'est l'esthétique. Mais ça ne doit pas avoir de prise sur la vie réelle. C'est le plus d'âme, vous voyez. Ben, il me semble que justement, il faut revenir sur ce découpage. Vous voyez, on a dessiné cultuel d'un côté, ça c'est bon pour l'Église, et le culturel laïque de l'autre, pour faire une indépendance de l'art. Il me semble que ça, on peut revenir dessus. Donc si ta question, c'est de dire, on revient sur ces découpages où on ne peut plus distinguer le culte, c'est-à-dire penser à des temps profonds, à des temps longs, pour moi c'est ça un culte, ça, pas forcément qu'il y ait des dieux, mais de dire effectivement la Loire, elle est là depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Et puis la condition humaine, qui avec nos politiques nous inscrivent historiquement, mais dans des temps où maintenant on est dans des temps où on vote tous les 5 ans, on ne sait même pas pourquoi on vote, et donc nos temporalités humaines ne correspondent plus à rien, ne fait plus sens dans nos existences. Et effectivement, l'art qui était autonome, qui était dans des lieux fermés, clos, dans les caméras obscuras, pour moi, il me semble que c'est plus là où se doit sujet, où se doit d'inventer des nouvelles formes de culture, parce qu'on ne doit plus être indemne des lieux de vie, on ne doit plus être indemne des temps, on ne doit plus être indemne des non-humains.
Oui, vous exprimez ça comme si toute l'expression de ce qu'on appelle l'art avait disparu, mais ça n'a jamais disparu. C'est toujours là.
Alors dis-moi ce qui était toujours là. Qu'est-ce que tu dis toujours là ? L'art est toujours là.
Oui, l'art est toujours là, à travers les paysans qui n'ont pas disparu complètement. Ce qu'on appelle l'art brut, bon, pourquoi pas. Mais en vérité, il y a toujours un paysan qui va sculpter une canne ou qui va tailler dans un arbre une armoire. Exactement. J'en ai une chez moi, je le sais.
Eh bien, exactement. Exactement. Ce que tu dis, je pense que c'est vraiment important parce que je pense que ce qui est en train de t'accompagner, une chose qui a basculé, c'est ce qu'on a autour de la santé. Tu sais, la santé occidentale, instrumentale, c'est dit, on a nos médecins, on va quadriller. Et puis, vous savez que depuis, on a fermé tout nos lits, hein, 450 lits d'hôpitaux. Donc, nombre de Français sont dans une désertification médicale très importante et on est obligé de réapprendre à vivre avec des lieux qui n'ont pas un médecin comme ça à portée de main. Ben, c'est pas rien parce qu'effectivement, ça permet de réapprendre à ce qu'on appelait auparavant les médecines communautaires ou les médecines de village ou le rebouteux ou celui qui te fait un soin, de passer le feu. Et bien, au final, comme la médecine aussi accepte de ne pas tout savoir maintenant, par exemple, elle ne sait pas ce que c'est que la douleur, la souffrance.
Elle accepte très difficilement.
Très difficilement. Mais ça commence par petits bouts. Et par exemple, comme elle ne sait pas ce que c'est que la souffrance, puisque la souffrance, c'est un mélange. On ne sait pas, c'est en même temps un peu physiologique. On sait que c'est très psychologique, mais c'est aussi culturel. Selon les cultures, on ne souffre pas de la même façon, du tout. Et on ne se soigne pas de la même façon. Et donc, entre autres, les hôpitaux, même parisiens ou même moi à Tours, on commence à faire venir de la médecine chinoise, par exemple. Mais vous savez que maintenant, la plupart des hôpitaux ont des passeurs de feu. Ce qui était auparavant des gens un peu relégués à cet obscurantisme des campagnes, eh bien, ils ont des listes de passeurs de feu. Et nous, pourquoi, entre autres, dans un des hôpitaux, mais il y en a à Paris. Ah oui, par contre. Passeurs de feu, c'est quoi ? Ben, par exemple, nous, c'est dans un hôpital où on a de grands brûlés, où il y a beaucoup de gens aussi qui sont brûlés de l'intérieur par le cancer, par la chimiothérapie, et ou des gens qui ont le zona, ou des brûlures de haut degré, de 2 et 3 degrés. Là, les souffrances sont très, très importantes. Et donc, soit tout de suite, on essaie d'atténuer la souffrance par des moyens, on va dire, qu'on a. Mais on sait qu'on des fois, c'est pas supportable. Et en fait, comme ils admettent qu'on ne sait pas comment supporter la souffrance, parce que la souffrance est une forme beaucoup plus large qu'on ne pense, ils ont accepté qu'effectivement, des gens qui sont des campagnes savent couper le feu, c'est-à-dire que... Alors, il y a plusieurs types de coupeurs de feu. Il y a des coupeurs de feu qui le font corps à corps. Par exemple, ils vous passent la main à un endroit où, véritablement, le bal vous prend. Une brûlure, ou de l'os, ou en superficie, et on vous met la main, et il y a une absorption de la souffrance. Ouais, dis-moi.
Moi, en l'occurrence, à distance, j'ai une amie de mes parents qui fait ce genre de choses. J'ai des brûlures et j'avais trop mal. Et instantanément, plus rien du tout. Et ça cicatriserait en un temps record. Et ça ne peut pas s'expliquer par la médecine, mais même au service des grands brûlés de France, ils ont toute une liste de coupeurs de feu ou barreurs de feu.
Exactement. Donc, c'est ce que tu dis. Hein. Donc, c'est non seulement à corps le corps, mais on peut le faire aussi à distance. Alors là, donc, la question maintenant, ce n'est pas simplement de prouver, c'est simplement de se dire si c'est pour le bien de la personne et si culturellement c'est accepté, eh bien, maintenant, les médecins positivistes, scientistes, acceptent que malgré tout, effectivement, quand ça soulage, ça soulage. Et là, nous, on est, à l'hôpital Rousseau ou dans les grands brûlés, ça soulage. Et effectivement, tu en as fait l'expérience, et moi aussi, j'en ai fait l'expérience il y a 2 ans. Je me suis fait brûler, mais moi, c'était en Corse, et j'ai une passeur de feu en Corse. J'avais 2 cloques, pour le dire. Et effectivement, elle m'a passé le feu, et en 4 secondes, plus rien. Je regardais, j'avais encore les cloques le lendemain, plus de souffrance. Et ce qui est intéressant là, c'est que ça dit aussi des syncrétismes culturels. Pourquoi ? Parce qu'en Corse, le syncrétisme, c'est qu'elle, elle a signé, on appelle ça signé, avec des textes religieux chrétiens, mais avec un rapport païen, puisque elle a directement enlevé ma souffrance physique. Et donc, les passeurs de feu sont de différentes natures selon les paysages qu'on habite. Donc ça aussi, ça m'intéresse. On a différentes médecines communautaires et on la pratique différemment et pourtant, il y a des résultats. Pourtant, on passe bien le feu. Et donc ça, ça m'intéresse. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. On intègre d'autres formes de médecine que la formule traditionnelle, instrumentale, positive. Et donc ça, la médecine, elle commence à être capable de le faire. Toby Nathan l'a fait en psy, a accepté de soigner en accueillant des migrants qui avaient d'autres cultures que la nôtre. Et il me semble qu'aujourd'hui, effectivement, l'art, petit à petit, comme tu dis, dans les campagnes, il y a toujours eu une forme d'art. Moi, quand je vais à Paris, pour tout vous dire, je supporte de moins en moins Paris, la seule chose qui me redonne une enveloppe, qui me rassure, c'est que je vais à l'Halle Saint-Pierre. Donc, t'as raison. Moi, de voir 2-3 coquillages qui se tiennent, qui font un truc, ça me soulage. Donc voilà, moi, je vais à Paris, ce qui me soulage, c'est l'Halle Saint-Pierre, par exemple. C'est comme ça. Voilà. Ou des fois, je vais à un autre endroit. Par contre, des fois, je prends des charges. Je vais à l'Halle Saint-Pierre et des fois, je ressors des fois un peu effondré. Parce que il y a des charges très violentes, affectives. Mais c'est comme ça. Je préfère ça que de recevoir passivement les tribulations de Paris sur lesquelles je n'ai pas de prise et je me sens complètement dépossédé. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, en médecine, en art, dans les espaces politiques, il y a une autre culture du soin qu'il me semble effectivement absolument besoin de faire émerger.
Elle n'a jamais disparu.
Elle n'a jamais disparu, je suis d'accord. Mais il faut la réactiver, surtout lui redonner une place que souvent on a voulu écraser.
Il y en a des nouvelles aussi.
Ouais, tu penses à quoi ?
Donc moi ça fait 25 ans, ouais. Enfin, je suis pas là pour, je peux témoigner, mais ça fait quand même 25 ans que je fais de la médecine traditionnelle chinoise et que je suis médecin interniste dans les hôpitaux. Donc on fait et de la médecine de la douleur et donc on a intégré toutes ces questions-là. Et donc je sais pas, enfin est-ce que c'est vrai que il faut quand même se battre. Hein, puisqu'on est peut-être considéré par beaucoup de nos collègues pour des charlatans. Voilà, mais ça fait son chemin, ça avance. Je pense que l'herboristerie chinoise va aussi faire son entrée. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Voilà, bon, je n'ai pas grand-chose de plus à dire.
Non, mais ce que tu dis, c'est important, parce que je pense que dans ce que l'on dit aussi, c'est qu'on essaie de voir comment réintégrer les cycles de la vie. Et comme tu dis, le cycle de la vie et de la mort, on sent qu'aujourd'hui, il y a des enjeux considérables dans les cycles de fin de vie, funéraire, la mort. Il y a des enjeux considérables pour donner la vie, accompagner la vie, la fécondation, la fertilité. Et là, effectivement, on a d'autres façons de prendre soin. On a d'autres façons de commencer à imaginer des rituels pour des morts, parce qu'il y a des syncrétismes, hein, on ne vit pas au même endroit. Moi-même, effectivement, j'ai des demandes. Ma mère dit, voilà, je suis de double culture, je suis corse, machin. Qu'est-ce qu'on fait ? Puisque, effectivement, une urne reste encore une unité corporelle en cendres. Ça aussi, ça serait intéressant de questionner toutes ces normes du corps, d'une norme de comment travailler, soigner ces grands cycles de vie et de mort entre humains, mais très souvent aussi, ces cycles-là sont souvent, prennent beaucoup plus de sens quand on les intègre à un cycle du vivant plus large que soi en général. Ça réintègre l'humain dans sa dimension de vivant et ça lui redonne pour moi un peu plus de sens.
J'ai l'impression qu'en France, on a pris beaucoup de retard. Voilà. Et qu'en France, on a pris beaucoup de retard et que si on regarde ce qui se passe dans les autres pays européens et ce qui se passe ailleurs sur la planète, on se dit qu'effectivement, c'est une vraie question. Pourquoi chez nous, on reste encore beaucoup dans l'analyse et dans la division? Ça doit être un peu culturel, un peu philosophique. Et en même temps, je pense que cette mise à distance, est très intéressante. Enfin, ça fait aussi la singularité de notre histoire française. Et moi, j'ai pas envie de jeter ça à la poubelle. Je suis sûre que ça nous fait avancer et qu'on le verra dans les prochaines années.
Ouais. J'ai une question qui est très reliée à ce qui vient d'être dit, mais avant toute chose, je voudrais te dire que moi, je suis un petit peu ligérien aussi. Ouais. Je suis comme toi, ma famille vient d'une autre région, mais je suis né à Orléans. J'ai fréquenté différents lieux au bord de la Loire, dont Saint-Mars-la-Pile, par exemple. Et je connais bien les îles de la Loire et je me suis baigné en toute inconscience des dangers. Donc il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup touché en fait dans ce que tu as dit, dans cette très très riche conférence. Je vais essayer de ne pas être trop long. Mais tu as dit tout au début, l'habitant c'est aussi le migrant qui passe. Or là, il y a un instant, on a parlé d'un ancrage dans le terroir, dans l'histoire, etc. Et donc, fréquentant moi aussi un certain nombre de milieux de ce type-là, Je me demande justement comment défendre ces idées. Aussi, tu as parlé de beaucoup de décolonial et de choses comme ça. Donc, je pense que dans ta tête, tout est très clair. C'est pas forcément aussi clair que ça dans la tête de personnes qu'on fréquente dans ces milieux-là, en particulier lorsqu'on parle de druides, etc. Ouais. Et par ailleurs, tu as parlé aussi des scientifiques qui peuvent attester du fait que les espèces de poissons qui fréquentent ce fleuve ont varié au cours du temps aussi. Il y en a certaines, des silures, des trucs comme ça, qui font partie du peuple de Loire. Exactement. Alors voilà, donc et j'imagine aussi que Bruno Latour a dû penser à des choses comme cela. Voilà, comment est-ce qu'on peut réfléchir intelligemment à cette question de rester ouvert et de ne pas s'enfermer dans une tradition, dans une sorte de primitivisme illusoire?
Non, c'est une sacrée question, et d'autant plus qu'effectivement, pour tout te dire, quand je pêchais, dans les années 70-80, je ne pensais pas aussi dur. Et ce qui est très marrant, c'est qu'à Tours, justement, c'était marrant, j'ai une petite anecdote comme ça, mais j'étais dans un bar, j'étais à Tours-Nord, dans un quartier populaire, des personnes d'Afrique du Nord discutent entre eux, et pile poil, de quoi ils discutaient? Ils étaient pêcheurs dans le Cher, et dans les années 70, l'un d'entre eux dit, mais casser la ligne, et il dit, mais c'est pas possible, il y a des brochets pas croyables. Et à force, ça commence à faire un récit, presque mythique, mythographique. Le Cher, avant qu'il soit canalisé pour faire un tour très moderne, très très habité, en fait, était méandré beaucoup, et donc il pêchait, et c'était donc les classes populaires pêchaient. Là, maintenant, ils sont confisqués, parce que là, on n'arrive même pas à atteindre le Cher. Et donc, je me rendais compte que les classes populaires pêchaient et qu'ils avaient leur récit de pêcher la Loire. Et j'ai regardé, je dis, ah ouais, mais aussi, donc ils cassaient. Et probablement qu'ils cassaient non pas sur des brochets, mais probablement sur des remontées de silures. Il faut penser qu'un silure, les tailles assez, assez grandes, va de 2m20, 2m30, voire 2m50. C'est un monstre, c'est ça. Des têtes comme ça. Et quelque part, il est pensé comme monstre. Je dis ça pourquoi ? Parce que regardez, dans la culture, qu'elle soit scientifique ou dans les cultures écologiques, des fois, on repense aussi à ce qu'on appelle les espèces nuisibles, invasives. Et aux dames de la Loire, nous avons ce monstre marin qui vient bouffer tout, les bons poissons, les cendres, les brochets, tout ça et tout ça. Donc, Et, soi-disant, ils colonisent, hein, tous ces mots de colonisation. Donc, c'est intéressant de travailler ces termes-là. Et que même ce gros poisson qui crée aussi des légendes, qui crée des mystères, hein, pour certains, et qui surtout indiquait que des gens populaires pouvaient pêcher et avaient leur récit, au fond, les gens un peu nobles, de bon langage, canalisent, puis disent à ces gens-là, vous n'habitez plus ce lieu, et en plus vont parler d'espèces invasives, d'espèces ceci, et les pêcheurs qui disent, oh ben nous aussi, et là les intérêts divergent, et là ça m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que le débat n'est plus un seul débat démocratique? Et donc dans notre ouvrage, on appelle ça maintenant un débat agonistique. On ne veut plus simplement penser qu'il y a des débats de parlement fermés, mais des agones, puisque chez les Grecs, l'agone, c'est un espace de conflit, mais où le conflit n'est pas simplement distribué entre amis et ennemis, comme dans le polémos, où le polémos, si on va jusqu'au bout, c'est la guerre. Et vous savez qu'en Occident, on nous dit la politique ou la guerre, au fond, l'un est la continuation de l'autre. Et on voit bien encore en ce moment, on ne sait plus faire de politique qui ne soit pas, au fond, basée sur la souveraineté de la guerre. On ne sait plus faire. C'est un cycle infernal. Et donc, pour ne pas faire ça, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'au fond, arrêtons de penser ennemi-ami, toujours binairement, mais de penser qu'il y a un tiers, quelque chose, qui vient mettre du grain dans la machine. Ben, ça peut être un silure. Ça peut être une personne qui vient être débauchée de son usine en disant « Ben non, l'usine a fermé et il faudrait peut-être penser l'écologie. » Et la personne dit « Ben alors moi, je suis de gauche, je suis cégétiste. Moi, l'écologie, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est un emploi. » Oui, donc même la gauche, elle est travaillée par des tensions comme ça. Et en même temps, il sait très bien que ce cégétiste, pour aller pêcher, ben, il va pêcher quoi son poisson, qui est complètement pesticidé avec les trucs avec des restants de la centrale nucléaire, et qu'il y a intérêt à ne pas bouffer les poissons qui sont trop envasés, parce que sinon, tu bouffes de la merde, quoi. Et, ou même, tout simplement, tu n'as plus de poissons, quoi. Tu vois bien que... Et donc, à travers la question de la migration ou du migrant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de se dire, en fait, c'est celui qui va faire un tiers et qui va poser autrement les problèmes. Et surtout, il ne s'arrête pas simplement à un enjeu de contrat entre toi et moi, des intérêts. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas un commun à construire qui n'est pas simplement un intérêt des pouvoirs publics et le privé, ou entre un intérêt d'un travailleur et d'un écologue, ou l'intérêt d'un autochtone et d'un migrant? Vous voyez, on nous place toujours dans une situation de deux figures, un polémos fermé, et on ne sait pas réouvrir l'articulation. Donc nous, l'agone, c'est se dire, bah si, il y a toujours une situation où il y a un tiers qui vient poser autrement les problèmes. Et qu'à un moment donné, c'est ce qui arrive quand on a pu abattre un des grands barrages aux États-Unis. Eh bien, les autochtones, c'est-à-dire les Amérindiens, qui avaient été chassés de là, mis dans des camps, disent ben, nous sommes un peuple saumon. Sans le saumon, on ne sait plus manger, on ne sait plus faire nos sacs, on ne sait plus faire nos fêtes. Nous ne sommes plus un peuple. Et ils revendiquent que, de nouveau, il y a une continuité écologique. Pas simplement pour avoir une belle eau, pour vivre saumon, pour vivre avec les saumons. Et donc, il a fallu négocier avec une centrale qui était à côté, qui donnait de l'emploi, et bien sûr, les pouvoirs publics disent « Oh non, mais là, il y a des emplois, je ne vais pas détruire les emplois. » Et les scientifiques naturalistes disent « Bah quand même, attendez, regardez. » Et alors, vous savez ce qu'ils ont proposé, les pouvoirs publics, dans un premier temps? On maintient le barrage, et on fait une pisciculture de saumon en bas du barrage. Non mais, waouh! Donc vous voyez, quand on ne revendique pas un monde, on revendique des fonctions sur l'eau. Ça, c'est les pouvoirs publics. Et même la gauche traditionnelle, pourvu que j'ai de l'emploi et pourvu que j'ai un saumon, au fond, tout va bien. Quitte à laisser un monde mourir. Et donc là, on se rend compte qu'entre la cause autochtone, la cause d'un naturaliste écologique, scientifique, et au fond, à force, les pouvoirs publics se sont dit « Ah bah ouais, et si on tentait l'aventure ?» Ben ils ont abaissé, ils ont cassé le plus grand barrage au monde qui était de 80 mètres de haut. Mais il faut tous ces acteurs-là. Et vous n'êtes plus simplement un travailleur, vous êtes aussi le pêcheur, vous êtes celui aussi qui fait la fête avec le saumon à côté, vous réapprenez à vivre autrement. Et c'est ça ce que nous, avec Sophie, on appellerait l'agone. Le lieu, la rivière, le saumon, même un grand arbre ou toute une forêt peut être l'occasion de redessiner les conflits. Et c'est ça qui m'intéresserait aussi aujourd'hui, de repenser des institutions qui reposent autrement les conflits, en dehors du contrat, en dehors des intérêts et en dehors des pouvoirs publics.
Merci. Est-ce qu'elles sont encore des institutions ? Je veux dire...
Alors justement, ça c'est une sacrée question et c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que en général, en Occident et d'autant plus en France et même d'autant plus dans les gens que fréquentaient, c'est-à-dire une certaine politique de gauche assez radicale, dès que vous mettez le mot institution, c'était terminé. Pourquoi ? Parce que en France, comme on l'a dit, on a une tradition très particulière, républicaine, centralisée, coloniale et nationaliste. Ça laisse peu de place à d'autres manières de vivre. Et donc, avec cette centralité et ce républicanisme, on n'a plus su repenser autrement nos manières de faire communauté. Et donc là, ce qui, moi, m'intéresse, c'est de se dire, en fait, l'institution... Vous savez qu'en France, on est quand même des gros balèzes d'une des institutions majeures qui fait l'espace démocratique. C'est des associations, loi 1901. C'est des institutions. Vous savez que Sarkozy essaye même de mettre un petit coup de pioche là-dedans en disant « Oh là, il y a des institutions qui brassent un peu trop d'argent, on va les mettre du côté du privé et on va casser la dynamique associative. » La dynamique associative, les dynamiques syndicales, les dynamiques féministes, c'est que des institutions. Mais elles ne sont pas étatisées. Donc moi, je fais la différence entre des institutions non étatisées et je prends plutôt l'idée de l'institution de ce qu'on appelle dans les formes d'anthropologie, c'est-à-dire une certaine communauté essaie de trouver des manières de vivre dans un espace et dans un temps donné. Et on essaie de faire émerger des nouvelles règles selon de nouvelles façons de s'adapter à un environnement social, écologique et autres. Donc pour moi, c'est ça des institutions. C'est de trouver une communauté qui essaie de repenser son mode de vivre dans des temps assez longs. Et donc, par exemple, en France, c'est vrai que depuis 100 ans, le mode associatif est un mode très répandu pour faire société. Si on n'avait pas aujourd'hui ça, je vous assure qu'il n'y a déjà plus de démocratie parlementaire, si on peut dire, ou démocratie représentative aujourd'hui en France. Il y a une démocratie aujourd'hui, elle est simplement citoyenne et habitante aujourd'hui. La démocratie institutionnelle d'État en France n'existe plus aujourd'hui. Elle est confisquée. On n'a plus de référendum. Tous nos votes sont confisqués. Et aujourd'hui, toutes les luttes d'émancipation sont à peu près collectives, sont à peu près réprimées sous forme de terrorisme. Donc il n'y en a plus sur un plan pratique de ce que c'est que normalement une démocratie active. On n'en a plus aujourd'hui. Donc s'il y a démocratie aujourd'hui, c'est-à-dire si on n'est pas encore en situation... d'autoritarisme ou de dictature, c'est que nous avons encore un bassin assez vif. Donc c'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse aujourd'hui. Mais au fond, c'est quoi ces modes associatifs ? Mais justement, l'association ne doit pas simplement faire des modes d'alliance entre cumains, mais de faire des alliances, justement, avec les autres. Et d'avoir une forêt avec soi, d'avoir un fleuve aussi puissant, c'est un cinquième de la France, ça donne une nouvelle puissance d'agir. Et les féministes, aujourd'hui, le savent, qu'on appelle les écoféministes, même les LGBTQ, les transgenres le savent, qu'aujourd'hui, on noue des alliances avec des autres qu'humains. Ça s'est fait à Notre-Dame-des-Landes, ça se fait dans toutes les luttes aujourd'hui d'occupation, de territoire, et bien sûr, on le sait très bien, que c'est ce qui a fait toute la tradition de lutte des Amériques centrales et du Sud, sur lequel je m'appuie, et sans parler des luttes, effectivement, au Kurdistan, des luttes de communautés. C'est de là que viennent les résistances. Donc il y a des résistances politiques actives, il y a des résistances culturelles, il y a des résistances de différents niveaux. Et il me semble qu'aujourd'hui, la puissance doit se jouer avec, effectivement, des forces qui ne sont pas que des forces humaines. Et aujourd'hui, c'est celles qui me semblent les plus émancipatrices aujourd'hui.
Voilà, peut-être... peut-être je pense que c'est... Un bon mot de conclusion, puis en fait on peut vraiment peut-être passer sur le mode informel, c'est-à-dire continuer s'il y a des questions, des précisions, voilà, on va se réunir autour d'un repas, il n'y a pas de saumon, mais on a de la betterave et de la soupe, on remercie...
Voilà, c'est ça.
Donc, il y aura quand même un peu de saumon en nous.
Ouais,
voilà. Et merci David pour l'intervention. Puis, merci.